Décryptage, Loïc Bussière.
Il y a d'abord cette opération lancée cette semaine dans le nord de l'Irak où l'armée turque vise les forces du PKK et puis quelques jours plus tôt un incident en Méditerranée où un navire français s'est retrouvé dans la ligne de mire des frégates d'Ankara. Deux épisodes qui illustrent l'hyperactivité militaire d'une Turquie et qui multiplie les démonstrations de force ces derniers jours au point que l'OTAN réunie mercredi à Bruxelles ne soit contrainte de jouer les arbitres. Mais alors quelle partition justement Recep Tayyip Erdogan fait-il jouer à son pays? Quels intérêts sert cet interventionnisme en Syrie, en Irak et en Libye donc, où il entraîne des tensions avec Paris notamment? C'est la question, ou plutôt les questions que l'on pose ce soir avec nos invités. Et pour tenter justement d'y voir plus clair, nous sommes en ligne avec deux spécialistes de ce dossier turc. Nora Seni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et ancienne directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Avec nous également Dorothée Schmidt. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme Moyen-Orient et Turquie à l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Alors, je le disais, Ankara est engagé militairement en Syrie. En Irak, il y a cette semaine cette opération militaire contre les rebelles du PKK. J'évoquais aussi les tensions dans l'est de la Méditerranée. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une accélération de l'activité militaire turque au Moyen-Orient, Dorothée Schmidt?
Oui, indéniablement, c'est très impressionnant de voir que dans cette période de crise sanitaire où finalement beaucoup de pays ont été repliés sur des problèmes domestiques et notamment les pays européens, la Turquie qui a relativement bien passé l'épreuve en a profité finalement pour lancer une offensive stratégique dans son voisinage. Et évidemment, l'opération en Libye a été ce qui est le plus spectaculaire, puisqu'en fait, la Turquie a réussi à renverser complètement la situation en Libye. Et maintenant, la montée en tension en Irak inquiète tous ceux qui ont des intérêts stratégiques dans la région, et au premier chef, l'OTAN et un certain nombre de pays européens de l'OTAN. C'est très, très remarquable de voir le lien en Turquie, et je pense que Nora pourra également en parler, entre les difficultés internes, les poussées d'interventionnisme extérieur, finalement la façon dont la diplomatie turque est instrumentalisée dans un récit à vocation interne aussi en Turquie.
Nora Seni, justement, vous diriez que le gouvernement turc a profité de cet épisode de la crise sanitaire, celle du Covid-19, pour servir d'autres intérêts?
Bah écoutez, la crise du Covid n'est pas tellement significative. Bon, il y a eu une accalmie obligatoire dans le monde, mais surtout, tout ça est d'une certaine façon prévisible. La Turquie se prépare à ce genre d'affrontement, et elle prépare aussi son monde, l'Union européenne, l'OTAN. Ça va être quelque chose de normal, de quotidien maintenant, cette façon de la Turquie de faire, de se référer à son armement, enfin à des forces militaires et à un déploiement plus militarisé que d'ordinaire. Je pense qu'il faut mettre ça en parallèle avec le projet de la Turquie, le projet de d'autonomiser l'industrie militaire de la Turquie, de l'autonomiser et de l'armée et des fournisseurs d'armes, les pays fournisseurs d'armes traditionnels de la Turquie. Donc il y a toute une industrie d'armement qui se met en place, qui s'est mise en place, et la Turquie a beaucoup expérimenté par exemple ses drones dans cette action contre la Libye, enfin contre Haftar en Libye, et avec succès visiblement.
Dorothée Schmidt, vous diriez justement également que la partition qui est jouée par les autorités turques, elle sert aussi cette volonté de jouer un rôle en tant que en tant que vendeur d'armes entre guillemets.
Oui, bien sûr, la Turquie veut devenir un acteur sur le marché de l'armement, qui est un marché qui devient de plus en plus concurrentiel et où les Russes aussi sont beaucoup montés en puissance au Moyen-Orient. La Turquie, effectivement, a deux objectifs dans cette optique. C'est d'une part de s'autonomiser, ce qui va lui permettre de calmer, je dirais, les tensions structurelles qu'elle a avec Washington, qui est son fournisseur d'armement essentiel, et puis aussi donc de devenir un acteur commercial sur ce marché. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les opérations récentes, aussi bien en Syrie qu'en Libye, ont été présentées un peu comme des showcases de l'armement turc, puisque notamment lors de l'opération turque à Afrin, la Turquie a beaucoup communiqué sur le fait que seules des armes turques ont été utilisées lors de l'opération et que donc ce sont des armes qui maintenant ont prouvé leur efficacité au combat. Mais je tiens à revenir à nouveau sur le fait que c'est cette relative désorganisation du système international qui a permis aux Turcs d'aller un peu plus loin que d'habitude, parce que les frictions avec des pays de l'UE, avec l'OTAN, bien sûr, on a une crise qui est aussi en train de devenir une crise structurelle. Elles existaient, elles préexistaient déjà à la crise, mais là, on a vraiment eu, comme vous le disiez en ouverture de cette émission, à mon sens, une accélération, des opérations turques avec un côté pas vu, pas pris.
Ça veut dire que cette manière d'avancer ses pions dans l'est de la Méditerranée et plus généralement au Moyen-Orient, elle est favorisée par le contexte, par le désengagement des Occidentaux au Moyen-Orient, notamment des États-Unis. On dit que la nature a horreur du vide, mais la politique étrangère aussi, Nora Seni?
Oui, bah, tout à fait. On a beaucoup glosé sur la Turquie et l'OTAN et la mort de l'OTAN, etc. Il y a un acteur majeur qui est un peu destructeur de l'OTAN, qu'on peut considérer comme destructeur de l'OTAN, c'est Donald Trump. Il a attaqué ces derniers jours l'Allemagne par un discours très agressif en lui reprochant de n'avoir pas payé sa contribution financière, lui reprochant aussi son engagement avec la Russie dans le Nord Stream 2, etc. Donc, et en retirant, en promettant de retirer les armées, enfin les soldats de les soldats de diminuer l'armée qui est parquée en Allemagne, de ramener le chiffre de 52 000 à 25 000 soldats. Bon, donc c'est des choses, c'est des coups portés à l'OTAN qui sont quand même tout à fait importants. Quant à l'Union européenne, elle n'a pas été très présente en effet ces derniers temps sur le volet de l'Est méditerranéen. Bon, le Covid est à bon dos, mais je veux dire, il n'y a pas une position commune de l'Union européenne quant à l'imposition que ambitionne la Turquie dans l'Est méditerranéen. Vous savez que la Turquie a passé un accord avec la Libye sur la délimitation des eaux territoriales et qui favorise sa possibilité de forer pour du gaz et qui en même temps. Cet accord qui légitime le soutien en armes et en hommes de la Turquie à la Libye. La Turquie dit je n'ai pas outrepassé l'interdiction d'apporter des armes à la Libye imposée par l'ONU, puisque c'est les Libyens eux-mêmes, la Libye. Les Libyens eux-mêmes qui m'ont demandé d'intervenir. Donc voilà, c'est comme ça que la Turquie joue et qui contourne l'Union européenne. Mais enfin, je veux dire, ce n'est pas tellement. De toute façon, sa stratégie aujourd'hui est d'aller au maximum, de forcer au maximum les rapports de force, aussi bien avec l'Union européenne, sans jamais finalement les rompre, ainsi qu'avec l'OTAN et les États-Unis. Après avoir, d'ailleurs, dans cette histoire de la position des États-Unis quant à quant à l'action de la Turquie en Libye, les États-Unis n'ont pas condamné la Turquie. Les Turcs viennent de déclarer qu'ils travailleront en Libye avec les États-Unis et d'ailleurs avec l'Italie.
Je reviens avec vous, Dorothée Schmidt, sur ce que vous esquissiez à l'instant, à savoir que l'action de la Turquie, elle est largement justifiée en ce moment par le retrait d'autres acteurs. La Turquie, elle, entre guillemets, elle comble un vide.
La Turquie joue toujours une sorte de rôle de bascule entre ses alliés traditionnels et d'éventuels nouveaux alliés. Je pense que même du temps de la guerre froide, où finalement le système international était beaucoup plus verrouillé, la Turquie a pu avoir des positions qui étaient un peu ambivalentes au sein du camp occidental, dès que ça touche à ses intérêts strictement considérés comme nationaux. Je pense à la question de Chypre en 1974, qui a occasionné une première très grave crise entre l'OTAN et la Turquie. Aujourd'hui, ce qui inquiète beaucoup l'OTAN, c'est que finalement, c'est une organisation dont la vocation stratégique est de plus en plus floue, qui a du mal à définir ses adversaires, qui, comme l'a dit aussi Nora Cheney, a un problème structurel aujourd'hui. Enfin, on espère que c'est un problème conjoncturel, finalement, qui est la présence de Donald Trump, qui est le premier problème de l'OTAN, mais qui a un autre problème, qui est aussi le Brexit, et qui a un troisième problème qui est l'affrontement franco-turc sur un certain nombre de problématiques régionales au Moyen-Orient. Et la Turquie, au sein de l'OTAN, percevant très bien les faiblesses de l'organisation, a systématiquement poussé l'idée que la Russie était un meilleur partenaire que les Occidentaux sur toutes sortes d'opérations. Alors, il se trouve que l'OTAN, c'est quand même l'organisation qui historiquement a été construite contre la Russie, contre l'influence russe. La Turquie a mis en cause systématiquement l'unité interne de l'OTAN en allant s'armer du côté des Russes, avec cette fameuse affaire des missiles antimissiles S-400 qui ont été acquis auprès de Moscou. Et puis la Turquie essaie sans cesse de pousser certains intérêts nationaux dont elle considère que d'une certaine façon ils pourraient être pris en charge par l'OTAN. Et là je pense à la question kurde. Systématiquement, les difficultés, les affrontements que la Turquie a avec des partis kurdes considérés à tort ou à raison comme séparatistes sont amenés sur la table de l'OTAN, et où la Turquie demande une solidarité des alliés de l'OTAN qui est impossible à obtenir.
Ben on voit, cela dit, que cette autorité de l'OTAN est largement battue en brèche. On le voit cette semaine avec cet incident dans l'est de la Méditerranée. L'OTAN, je le disais en titre, est amenée à jouer le rôle d'arbitre, mais on le voit, c'est un rôle qui est joué à minima, Dorothée Schmidt.
Oui, mais ce qui est intéressant pour moi cette fois-ci, c'est quand même que les pays européens au sein de l'OTAN ont montré une solidarité sans faille pour condamner les agissements de la Turquie. Et que on voit très bien que l'organisation a beaucoup de mal à arbitrer entre cette volonté de consensus systématique et aujourd'hui un bloc qui se constitue vraiment, je dirais, contre la Turquie, avec les États-Unis qui sont dans une position de faux arbitre, puisque, comme on l'a dit, ils ne se prononcent pas sur ce qui se passe en Libye aujourd'hui, mais qui en réalité eux-mêmes ont des tensions très fortes transatlantiques avec la Turquie, essentiellement du côté des Turcs. Ce que les Turcs reprochent aux Américains, c'est d'avoir gardé sur leur sol le fameux imam Fethullah Gulen, qui est, selon les Turcs, responsable de la tentative de coup d'État militaire chez eux en 2016. Tant que cette question de Gulen ne sera pas réglée, on aura des tensions américano-turques extrêmement fortes, mais les Américains ont besoin des Turcs pour jouer les supplétifs sur un certain nombre de dossiers au Moyen-Orient. Sauf que c'est un supplétif qui aujourd'hui est très indiscipliné et qui les met aussi en délicatesse avec d'autres alliés, notamment les alliés du Golfe, puisque la Turquie est à couteau tiré avec l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Elle s'entend avec le Qatar dans un autre sous-système d'affrontement qui est celui des pays arabes du Golfe. La Turquie a aussi récemment répété qu'elle était opposée à l'imposition des sanctions à l'Iran. Donc ça, c'est aussi une ambivalence très problématique pour Washington, qui est le fer de lance de cette lutte contre le régime iranien.
Nora Cheney, c'est difficile pour un béotien, entre guillemets, d'y voir clair, justement, dans cette attitude de la Turquie qui jongle, entre guillemets, justement, avec les alliances des pays extérieurs.
Oui. Il faut s'habituer à avoir à détecter des logiques par groupe de pays pour des enjeux spécifiques. Des enjeux spécifiques déterminent des alliances et des controverses spécifiques entre des pays, des alliés dans certains enjeux deviennent des opposants dans d'autres. Mais la Turquie joue très bien aussi la division. Enfin, je introduis la division. Par exemple, dans cette histoire cette dernière histoire entre les bateaux là, qui ont été visés par les bateaux turcs, la Turquie a beau jeu. La France, dit-elle, a beau jeu d'essayer de se plaindre à l'OTAN. Elle est dans cette histoire avec la Libye, dans le camp anti-OTAN, puisqu'elle est alliée avec la Russie sur le versant Haftar, sur le bloc Haftar, de soutien à Haftar. Donc là, puisque l'Haftar est soutenu par la Russie.
On rappelle effectivement qu'en Libye, il y a un gouvernement d'union nationale qui est soutenu, notamment militairement d'ailleurs, par la Turquie, et que de l'autre côté, le maréchal Haftar, qui tente lui de reprendre le contrôle de Tripoli depuis à peu près un an, est soutenu par Moscou, par Riyad et par l'Égypte.
Et par la France.
Et par la France.
Voilà, c'est ça. Donc, et la France se trouve donc dans un camp avec la Turquie, avec la Russie, ce qui est absolument contraire au bloc OTAN. Donc, voilà, et puis c'est la même chose. On peut trouver aussi des situations assez aberrantes en Syrie et en Libye où les Russes et les Turcs sont dans des affrontements et dans des alliances aussi sur d'autres domaines, notamment sur les livraisons, sur le commerce, sur les échanges commerciaux, sur les projets de construction de pipelines et voilà ce genre de dangers majeurs en mer Noire, où ils sont ensemble. Et ils sont aussi ensemble dans une attitude de défiance vis-à-vis des institutions occidentales, notamment l'OTAN, notamment les États-Unis, etc. C'est ce qui rapproche d'une certaine façon Poutine et Erdogan, ne serait-ce que dans la rhétorique.
Pour revenir justement au cas particulier, vous prononcez le nom de Recep Tayyip Erdogan. Ce qui se passe en ce moment, cette hyperactivité militaire de la Turquie, comme je la décrivais, elle sert aussi l'agenda personnel du président Erdogan, qui n'est pas au mieux dans les sondages de popularité. Il y a des critiques qui visent son parti, l'AKP. Est-ce que justement cette façon de jouer sur la fibre nationaliste de ses concitoyens peut s'avérer un pari gagnant, Dorothée Schmidt?
Oui, mais partiellement seulement, parce que c'est aussi un pari qui est très risqué si des vies turques sont en danger. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'intervention turque en Libye, elle s'est appuyée essentiellement sur des mercenaires qui ont été transférés de Syrie. Et c'est là que pas mal d'experts parlent de moyenne orientalisation, d'ailleurs, des stratégies turques dans la région. C'est que l'armée turque s'appuie de plus en plus sur des groupes associés pour ne pas mettre en danger la vie des soldats turcs directement, parce qu'elle sait très bien que ça serait un test de popularité compliqué à passer s'il y avait des pertes turques importantes. Mais je voudrais répondre une seconde à une de vos questions précédentes. Comment comprendre ce que fait la Turquie? En fait, il faut se mettre à la place de la Turquie. Donc, il faut juste connaître un petit peu l'histoire turque, mais aussi raisonner tout simplement dans le rapport des puissances régionaux. C'est un pays qui a une position centrale, qui a d'ailleurs, cette position centrale a motivé cette fameuse grande diplomatie de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoğlu, qui était une politique à 360 degrés sur les frontières de la Turquie. Donc ça veut dire être agile aussi bien du côté de ce que sont les zones d'influence russe que dans les anciennes zones d'influence ottomane que sont les Balkans, la Méditerranée et le Moyen-Orient. C'est une politique qui a des intérêts nationaux de proximité qui sont défendus, et c'est aujourd'hui le discours des turque en Méditerranée orientale, sur la question de Chypre notamment, où il y a des frictions extrêmement fortes avec l'Union européenne. Et puis, on a vraiment cette volonté de s'imposer comme puissance dans un système international dont on sent qu'il est en recomposition. Et pour revenir à ma petite obsession du Covid, Tayyip Erdogan, depuis le début de la crise, dit que la crise du Covid-19, c'est une égalisation des relations internationales, qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les puissants ne sont plus si puissants et que chacun a sa carte à jouer.
Merci, on n'en dira pas davantage ce soir. Merci à vous, Nora Seni et Dorothée Schmid, d'avoir répondu à l'invitation des RFI. À suivre sur Radio France Internationale, c'est le débat du jour avec Philippe Le Caplan. On parle du redécollage du trafic aérien après justement la crise du Covid.